Merci Maïlys et on vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une très bonne après-midi avec nous sur France Culture, après-midi que nous poursuivons en parlant une dernière fois cette semaine de l'écrivaine Annie Ernaux. Toute l'équipe vous salue bien, Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Chloé Casmarek et Nicolas Delmas. La vie et l'œuvre d'Annie Ernaux se confondent, son enfance de fille unique à Yvetot en Normandie, où elle va découvrir presque par hasard que ses parents ont eu une autre fille avant elle, emportée par la maladie. Yvetot, c'est donc le lieu de l'enfance, c'est aussi le symbole de la différence sociale, insupportable quand on ne fait pas partie des classes les plus favorisées. Tout cela, Michel Porte a commencé de nous en parler lundi, tandis que Tiphaine Samoyot est revenue, elle, sur ce que cela signifie que d'être une jeune fille chez l'auteur de « Mémoire de fille ». Mardi, c'était une émission pour la replacer dans la galaxie des auteurs contemporains par la voix de Dominique Viard, qui nous a également parlé de Bourdieu et de la politique chez l'auteur de La Honte. Enfin, hier, avec Pierre-Louis Faure, nous avons suivi Annie Ernaux dans les supermarchés de Pontoise, qui sont pour elle des lieux de vie à part entière, comme des places de village des temps modernes. Nous avons également parlé de son récit La Place, prix Renaudot, 1984. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous, Bruno Blankmann, bonjour.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci d'être là. Vous êtes professeur de littérature française des 20e et 21e siècles à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes l'auteur de l'essai « Les récits indécidables » publié en 2017 aux presses universitaires du Septentrion. Essai dans lequel vous étudiez les récits de Jean Echenoz, d'Hervé Guibert, de Pascal Quignard. Vous avez également publié « Lire Patrick Modiano » chez Armand Collin en 2014. Et puis vous êtes par ailleurs le maître d'œuvre du dictionnaire Marguerite Yourcenar, paru en 2008 chez Honoré Champion. Entre Yourcenar et Ernaux, on ne voit pas tellement de filiation. Est-ce que vous vous en voyez ?
Il y a au moins un prix depuis le mois de décembre, puisque Annie Ernaux a reçu parmi les nombreux prix qu'elle avait déjà, le prix Marguerite Yourcenar.
Ça veut dire quelque chose, ça ?
Oui, je pense. Il y a quelques passages dans l'œuvre d'Ernaux où elle cite Yourcenar, entre autres dans Le Quarto, des extraits de son journal intime, où on trouve cette formule assez frappante et assez représentative de sa démarche, de sa pensée, de sa propre situation, quand elle dit « Je suis plusieurs femmes, je suis Marguerite Yourcenar, je suis Dalida » et il y a une énumération qui s'achève avec « Et je suis même Sœur Sourire ». Donc il y a comme ça une espèce d'autoportrait prismatique avec différentes personnalités.
Est tellement associé à la grande aristocratie. Et Annie Ernaux est tellement associée justement aux classes populaires qu'on pourrait imaginer qu'il y a comme une distance entre ces deux femmes.
Oui, bien sûr. Alors, l'aristocratie de Marguerite Yourcenar, elle s'est gentiment assise dessus dès son plus jeune âge, quand elle s'est débarrassée de sa particule. Elle a un côté aussi très engagé, très impliqué, entre autres dans la défense de l'environnement, ou aussi et surtout quand elle a traduit dès les années 60 des gospels, ce qui faisait sens pour quelqu'un qui vivait aux États-Unis. Et donc je pense qu'il y a des interactions, des points de rencontre, même si bien sûr il ne faut pas pousser les recoupements trop loin.
Alors vous vous intéressez donc beaucoup à Annie Ernaux. Je crois qu'en ce moment vous donnez une conférence à l'université sur son ouvrage « Les années » qu'elle a publié en 2008 chez Gallimard et qui lui avait valu donc le prix François Mauriac. D'où vous est venu cet intérêt ?
Pour Annie Ernaux.
Pour Annie Ernaux.
Pour Annie Ernaux. Écoutez, je dirais qu'il est, avant tout un intérêt de lecteur. J'ai lu La Place parce que ce livre, je l'ai trouvé dans la bibliothèque familiale.
C'est par La Place que vous êtes entré.
Voilà, c'est par La Place d'Annie Ernaux. Absolument. Et puis après, j'ai continué à lire ce qu'elle a écrit. Et lorsque j'ai fait ma thèse sur une problématique de l'immédiat contemporain, de la littérature au présent, Annie Ernaux, j'ai sollicité son œuvre dans certains passages autour de la question du renouvellement des écritures de soi, à côté de l'autobiographie classique.
Donc avec vous, on va parler des années, on va aussi parler des chansons, hein, parce que vous êtes intéressé à ce thème, et puis on terminera en évoquant le travail d'Aurélie Adler, qui a aussi participé au colloque de Cerilli que vous avez organisé, et qui est l'auteur de l'essai « Éclat de vie muette », mais donc d'abord, les années.
Les jours de fête après la guerre, dans la lenteur interminable des repas, sortait du néant et prenait forme le temps déjà commencé, celui que semblaient quelquefois fixer les parents quand ils oubliaient de nous répondre, les yeux dans le vague. Le temps où l'on n'était pas, où l'on ne sera jamais, le temps d'avant. Les voix mêlées des convives composaient le grand récit des événements collectifs auxquels, à force, on croirait avoir assisté. Il n'en avait jamais assez de raconter l'hiver 42, glacial, la faim et le rutabaga, le ravitaillement et les bonds de tabac, les bombardements, l'aurore boréale qui avait annoncé la guerre, les bicyclettes et les carrioles sur les routes à la débâcle, les boutiques pillées, les sinistrés fouillant les décombres à la recherche de leurs photos et de leur argent, l'arrivée des Allemands, chacun situait précisément où, dans quelle ville. Les Anglais toujours corrects, les Américains sans gêne, les collabos, le voisin dans la résistance, la fille extendue à la libération. Le Havre rasé où il ne restait plus rien, le marché noir, la propagande, les Boches en fuite traversant la Seine à Côte-Bec sur des chevaux crevés, la paysanne qui lâche un gros paix dans un compartiment de train où se trouvent des Allemands et proclame à la cantonade « Si on ne peut pas leur dire, on va leur faire sentir. » Sur fond commun de faim et de peur, tout se racontait sur le mode du « nous » et du « on ».
Extrait des années lues par Annie Ernaux elle-même. C'est un livre, Bruno Blankmann, qui marque une rupture dans son œuvre. On n'était pas habitué à cette écriture-là jusqu'aux années chez Annie Ernaux.
Alors, une évolution, oui, par, je dirais, le format du livre. C'est un livre long, là où Annie Ernaux travaillait sur les formes brèves et travaille toujours sur les formes brèves. En même temps, c'est un livre qui s'inscrit non pas simplement dans la continuité de l'œuvre, c'est l'œuvre de l'œuvre. C'est le livre qui englobe non seulement tous les récits qui avaient été publiés depuis, c'est-à-dire que toutes les histoires racontées, à la fois personnelles et collectives, depuis les armoires vides, depuis la place, on les retrouve à titre de fragments, avec un éclairage différent, avec un éclairage retravaillé par le temps, puisque ce sont déjà des ouvrages publiés antérieurement, donc qui appartiennent à une sorte de préhistoire de l'œuvre, et ils sont réactivés, ils sont réinterrogés, du moins les événements que racontent ces ouvrages antérieurs. Et puis, il y a, et ça on le mesure maintenant pleinement, dans les années, hein, qui a été publié il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, ça va faire 10 ans, il y a déjà tous les ouvrages qu'Annie Ernaux a publiés depuis, à titre de piste, à titre de fragment. Donc c'est véritablement une sorte d'architecture, de grande architecture littéraire, avec aussi tout un travail sur l'histoire extraordinaire, puisque il y a une sorte de déclinaison de toutes les décennies depuis ces années 40, qu'elle a connu parce qu'elle est née en 40, mais qu'elle n'a pas connu parce que c'est l'héritage de la mémoire.
Donc c'est bien le livre qui reprend tout, qui fait la synthèse,
oui.
Qui assure comme l'essence de l'œuvre de Annie Ernaux. C'est presque, vous le dites aussi, un livre d'histoire. En tout cas, elle donne une vision de la société française sur cette décennie. Et on ouvre ce livre sur une citation du philosophe José Ortega y Gasset qui dit « Nous n'avons que notre histoire et elle n'est pas à nous ».
Oui.
Vous êtes interrogé sur le choix de cette citation ?
Oui, elle annonce finalement tout le projet, enfin toutes les tensions du projet que sont les années. La mémoire est collective, la mémoire est commune aussi, et en même temps elle est disparate. Et parce qu'elle est disparate, elle est singulière. Et tout le projet d'Annie Ernaux, c'est d'essayer de trouver non pas une sorte de synthèse, non pas une sorte de compromis, mais un va-et-vient permanent entre ce qui serait une mémoire individuelle, avec un certain nombre de marqueurs biographiques et des marqueurs affectifs, des marqueurs sociaux, et puis ce qui serait une mémoire commune, une mémoire générationnelle, mais aussi une mémoire sexuée. Hein, Mémoire de fille, son dernier récit figure déjà par le biais d'un fragment dans les années, ce qui serait aussi une mémoire sexuelle, tout ce qui est l'écriture de la passion que l'on retrouve dans les années. Bref, une sorte véritablement d'inclusion de la mémoire commune par la mémoire individuelle et d'englobement de la mémoire individuelle dans une mémoire commune.
Est-ce qu'il y a une volonté de saisir les années qui passent ? Parce que la deuxième citation en exergue, c'est une citation de Tchekhov qui est une longue citation, je ne la donnerai pas en entier, mais qui rappelle que ce qu'on écrit sera oublié, ce qu'on vit sera oublié, ce qui nous semble très important ne paraîtra plus du tout important dans quelques années. Est-ce que c'est ça, pour le dire un peu naïvement, cette tentative de saisir l'absurdité de la vie que cherche à faire aussi Annie Ernaux avec ce livre ?
Oui, sauver sa circonstance, hein, comme elle l'écrit. Et sauver sa circonstance, c'est sauver aussi celle des autres. Donc il y a toute une dimension où finalement l'historique disparaît au profit de la question du temps, hein, de l'interrogation sur le temps, et surtout d'une écriture qui entend, de manière, je dirais, modeste, résister au temps, et surtout résister à l'oubli. Mmh. Ce qu'il y a de frappant, et ce qui fait, je dirais, la beauté mélancolique des années, c'est entre autres les pages d'ouverture et les pages de conclusion, qui se présentent sous forme de fragments très bref, et de fragments détachés de toute actualité et de toute matérialité presque.
On peut précisément écouter les presque dernières lignes des années, lues ici par Dominique Blanc et Guillaume Gallienne.
Le petit bal de Bazoches-sur-Oenne, avec les auto-tamponneuses.
La chambre d'hôtel rue Beauvoisine à Rouen, non loin de la librairie Le Pouzé, où Kayat avait tourné une scène de Mourir d'aimer.
La tireuse de vin au supermarché Carrefour de la rue du Parmelan, Annecy.
Je me suis appuyé à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains.
Le manège du parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains.
La toute jeune femme en manteau rouge qui accompagnait l'homme titubant sur le trottoir qu'elle était allée chercher au café Le Duguay-Clin en hiver à La Roche-Posay.
Le film des gens sans importance.
L'affiche à demi déchirée 3615 Oulin, au bas de la côte de Fleury-sur-Andelle.
Un bar et un jukebox qui jouaient Apache à Tally Ho Corner, Finchley, Londres.
Une maison au fond du jardin, 35 avenue Edmond Rostand, à Villiers-le-Bel.
Le regard de la chatte noire et blanche au moment de s'endormir sous la piqûre.
L'homme en pyjama et chaussons tous les après-midi dans le hall de la maison de retraite à Pontoise, qui pleurait en demandant aux visiteurs d'appeler son fils, en tendant un bout de papier sale où était écrit un numéro de téléphone.
Et la toute dernière ligne du roman, Bruno Blankmann, c'est « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». C'est exactement ce que vous disiez à l'instant sur l'importance à la fois de l'écriture fragmentaire et puis cette dernière phrase qui résume tout.
Voilà, l'écriture fragmentaire, elle est à la fois, je dirais, dans l'imitation du temps qui passe, hein, dans une sorte de déconstruction, de décomposition. C'est une écriture de la décomposition de la vie et de la mémoire, mais en même temps, c'est une écriture de la résistance à cet effacement. C'est-à-dire que c'est une écriture qui se travaille comme essentielle, hein, au sens où les aphorismes des grands écrivains moralistes classiques essayait d'aller à l'essentiel par des formules contractées. Mmh. C'est aussi ça, cette écriture. C'est-à-dire qu'elle est totalement ambivalente. C'est une sorte de contestation qui se sévène de la loi du temps, mais en même temps, cette contestation, elle se justifie, elle se légitime par le travail sur la langue, par le travail sur les formes romanesques, par la littérature, sauver. Ce verbe sauver, c'est à la fois la sauvegarde, le sauvetage de ce qui a été vécu collectivement et personnellement, mais c'est aussi quelque chose qui relève du salut.
Alors on pense évidemment dans cette attitude de sauver la mémoire, sauver une mémoire qui nous est personnelle mais qui est en même temps va au-delà de nous. On pense à la recherche du temps perdu et le travail de la mémoire que Proust a évidemment opéré. Est-ce que pour vous on peut faire une analogie entre l'œuvre d'Annie Arnaud, ou plutôt sa démarche, et la démarche de Marcel Proust?
Oui, je pense qu'on, non seulement on peut, mais on doit. Et il y a une sorte de présence implicite du modèle proustien, et avec, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, un certain nombre de madeleines qui prennent une forme toute particulière chez Annie Arnaud et qui réveillent la mémoire enfouie, la mémoire souterraine. Par exemple.
Mais enfin, vous dites que c'est pas des madeleines, vous dites que c'est des biscottes.
Ce sont les deux parce que ce qui différencie quand même Proust d'Annie Arnaud, c'est que Annie Arnaud croit à la mémoire volontaire. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est effectué pour forcer la mémoire en quelque sorte à rendre gorge, c'est-à-dire à produire des souvenirs. Donc cette mémoire ordinaire qui finalement fonctionnerait sur commande, c'est ce que j'appelle la mémoire biscotte, c'est la mémoire du quotidien, la mémoire prosaïque.
D'accord.
À côté de ça, il y a la mémoire beaucoup plus épiphanique, il y a la mémoire madeleine qui revient parce que un certain nombre de sensations, sans prévenir, la réactivent.
Proust, un autre auteur me venait à l'esprit en écoutant l'extrait des dernières pages des années qu'on vient d'entendre, c'est Pérec. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'accumulation le côté un petit peu espèce d'espace de Pérec, voire même les choses
Oui. Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Il y a, Annie Arnaud a lu Pérec, et il y a une dimension ethnographique chez Annie Arnaud, comme il en est une dans un certain nombre de textes de Pérec. Dans les deux cas, ce n'est pas une ethnographie qui est autosuffisante, mais c'est emprunter une démarche pour abonder dans un projet qui est propre à Annie Arnaud, hein, qui est véritablement à la fois sauver la trace de certains lieux, de certaines pratiques, de certains usages, mais en même temps s'en servir comme d'un moyen d'explorer sa propre mémoire.
Et vous reprendrez bien une biscotte.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Vous êtes bien sûr France Culture et vous écoutez la compagnie des auteurs et Joe Dassin. Alors évidemment, on a tous un peu le sourire dans ce studio et aussi derrière la vitre. Ça dit bien qu'il y a quelque chose de commun autour de cette chanson qui est citée par Annie Ernaux dans Les Années, l'été indien, qui cite l'Amérique aussi de Joe Dassin, qui en cite beaucoup. C'est peut-être ça qu'elle cherche à produire finalement, cette espèce d'énergie, de sourire qu'on a en commun en se remémorant ces chansons qu'on connaît tous. Ou est-ce que c'est encore autre chose, Bruno Blankmann?
Oui, c'est un sourire de complicité par-delà le temps et les époques. Ça n'est pas
et les générations.
Voilà, ce n'est pas un sourire de mépris. Ouais. C'est-à-dire que c'est emprunté à la culture populaire de telle sorte que chacun puisse s'y retrouver dans un certain nombre de souvenirs qui sont saisis en tant que tels et non pas dans la perspective d'un ordre du mérite en quelque sorte.
Ce sont des ponts entre les classes sociales
ce
aussi.
Ce sont des ponts entre les classes sociales, ce sont des ponts entre les décennies, enfin jusqu'à un certain point, parce que je ne suis pas sûr que l'été indien fasse sourire ou pleurer les plus jeunes. C'est aussi, si vous voulez, c'est un marqueur d'époque, pour reprendre le terme que Annie Ernaux emploie elle-même. Ça renvoie à cet été du milieu des années 1970. Ça renvoie aussi à ce qui était une sorte d'affection, admiration pour un certain type de vedette, hein, ce que l'on appelait des vedettes. Le mot a disparu maintenant. Donc Joe Dassin était un des parangons patentés. Automatiquement, pour ceux et celles qui ont vécu cette époque-là, les simples premières notes ou premières paroles de la chanson réveillent tout un environnement qui était plus ou moins oublié.
Est-ce qu'on peut parler de nostalgie chez Annie Ernaux, ou est-ce que c'est un mot qui est un petit peu trop fade, et un petit peu trop faible et qui ne va pas jusqu'au bout de la démarche d'Annie Ernaux?
Non, il n'y a pas de nostalgie au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle n'écrit pas dans le sentiment d'avoir perdu tel ou tel élément du passé. Elle n'écrit pas dans le regret de ce passé, elle écrit dans la volonté de comprendre ce qui reste de ce passé, au fond d'elle-même et au fond des autres, elle écrit aussi dans la perspective de transmettre une signification de ce passé au présent. Qu'est-ce que représentent ces années 70 pour nous?
Ouais. Alors les chansons que vous avez donc étudiées pour le colloque de Cerisy qui portait sur la mémoire chez Annie Ernaux, c'est un sujet immense parce que elle les évoque, ces chansons, dans à peu près tous ses livres, peut-être même de plus en plus au fur et à mesure de sa bibliographie, Bruno Blankmann.
Oui, dans quasiment tous les livres, il est fait mention de chansons et la gamme est très 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 ouverte. Hein. Ça va du Bal perdu, chanté par Bourvil, créé par Juliette Gréco, mais chanté par Bourvil, jusqu'à Voyage de Désirless, en passant par Mon Dieu de Piaf ou Un jour tu verras de Mouloudji. Enfin, c'est très très I Will Survive aussi. Enfin, c'est très ouvert, c'est très tourbillonnant.
Et vous dites que si la chanson importe dans son projet, c'est par sa capacité d'effacement. Qu'est-ce que ça signifie?
Ben, ça veut dire que les chansons, c'est ce qu'on oublie. Enfin, c'est ce qu'on oublie apparemment. Il suffit de 2-3 notes pour qu'automatiquement la chanson se réveille et avec elle l'époque qui lui est propre, se réveille aussi et appelle toute une série de souvenirs qu'on avait oubliés. C'est ce qui fait aussi qu'il y a une fédération, une communauté par la chanson dans certaines circonstances festives qui sont les repas de famille ou les réunions où il y a là des espèces de synergies qui se créent. Parce que, au travers d'une chanson que tout le monde connaît, même si personne ne l'apprécie vraiment, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour tous, on redevient en partie maître d'un passé saisi à la racine, dans son quotidien le plus pragmatique.
Donc ce sont des chansons qui couvrent tout le spectre qui va de la chanson grand public à la chanson d'auteur.
Absolument. La chanson d'auteur, elle est représentée par ce qu'on appelait, il y a une quarantaine d'années, les 5 B. Barbara, Brel, Brassens, Béart et Béco. Donc on les trouve tous. Très très belle référence et très significative dans Se perdre à la chanson de Barbara, Dis quand reviendras-tu.
Et Léo Ferré aussi.
Léo Ferré, bien sûr. Léo Ferré. Et puis il y a tous les chanteurs et toutes les chanteuses de variété aussi.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra.
Cet extra de Léo Ferré, chanson sur laquelle Annie Ernaux a écrit un texte dans le numéro 601 de la Nouvelle Revue Française. C'était en 2012, un numéro spécial intitulé « Variété, littérature et chansons » où Annie Ernaux racontait bien qu'elle écoutait cette chanson en sortant de l'hôpital de Pontoise, Bruno Blankmann, où séjournait sa mère malade de la maladie d'Alzheimer. Et c'est avec cette chanson qu'elle fuyait, raconte-t-elle dans sa petite R5, la vieillesse et la mort. C'est donc que les chansons sont profondément liées aux divers événements de la vie d'Annie Ernaux, et y compris aux événements douloureux.
Oui, c'était aussi un des éléments dont elle parlait, dont je ne suis pas sorti de ma nuit, qui est un récit bref consacré à la maladie de sa mère. Alors là, ça questionne le rôle des chansons, à la fois dans les affects d'un individu, mais surtout dans ce qu'il en fait. En sa qualité d'œuvre. L'une des grandes fonctions littéraires de la chanson, dans le projet d'Annie Ernaux, c'est de polariser l'intime aussi. Pas simplement de réveiller une mémoire collective, mais aussi, en quelque sorte, de réveiller le sujet à lui-même depuis son propre passé. Il suffit d'entendre une chanson pour se retrouver plongé dans un certain nombre d'événements ou de situations qu'on a pu vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans auparavant. Et la puissance émotionnelle de la chanson agit sur notre propre sensibilité.
Est-ce que ce n'est pas aussi la chanson d'affirmer la prééminence de la vie dans les romans d'Annie Ernaux, du désir de vivre? J'y pense notamment parce que cette chanson, cet extra, qu'elle écoute donc en sortant de l'hôpital, elle l'écoute aussi quand elle va retrouver son amant. Et elle associe cette chanson à ces deux événements. Et on a le sentiment que, justement, c'est la vie qui reprend le dessus grâce à cette chanson.
Oui, oui, tout à fait. La chanson, elle accompagne l'air du temps, c'est-à-dire qu'elle accompagne aussi les instants de la vie. La vie abordée en termes d'instants, en termes d'instantané. Et il y a une sorte, effectivement, de recharge vitale de soi par l'énergie de telle ou telle chanson. Alors, pas toutes les chansons, parce qu'il y a aussi des chansons qui sont plombantes, hein, il y a aussi des chansons mortifères, mais celle-ci, ne serait-ce que par la manière qu'a Ferret de la composer et de la chanter, hein, ça commencerait doucement, et puis ça termine par une espèce de puissance d'énergie vocale, musicale, et qui est une énergie véritablement du désir et de la volonté d'être heureux, hein, d'avaler la vie.
Alors on est passé de la variété à la chanson d'auteur. On n'a pas parlé de la musique classique, on peut peut-être terminer par ça avant la chronique d'Éric Marty. Oui. Ça, c'est vraiment la haute culture, entre guillemets. Oui. Est-ce que c'est considéré comme étant peut-être parfois trop impressionnant pour Annie Ernaux, ou en tous les cas pour qu'elle le mette dans ses romans, mais en même temps, elle dit qu'elle écoute Bach, par exemple. Oui. Quel est le rapport d'Annie Ernaux avec cette musique classique ?
Elle écoute, elle connaît cette musique-là, et comme vous le dites, elle la réfère, Bach, et puis tout ce qui est finalement davantage la musique sacrée, hein, qui intervient et qui fait sens aussi avec un arrière-plan à la fois thématique et aussi un arrière-plan biographique, qui est quand même son éducation dans une école qui était une école privée, oui, confessionnelle, catholique.
Et ce qui fait qu'elle pense à la Passion selon saint Jean au moment où elle raconte son avortement quand elle était étudiante.
Oui, alors là c'est les effets de télescopage, hein, les effets de télescopage volontaire, c'est la part aussi de mystification propre à un certain usage qui est traditionnellement fait des textes religieux, hein, comme édifiants. Bon, ils ne le sont pas tant que ça, leur beauté est ailleurs.
Bruno Blankmann, en seconde partie d'émission, on continuera de parler d'Annie Ernaux, mais tout de suite c'est le moment de la chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous les jeudis, vous le savez, nous demandons à un universitaire ou à un écrivain, ou parfois aux deux en même temps, comme c'est le cas aujourd'hui, de venir nous parler de l'auteur dont il est question toute la semaine. Bonjour à vous, Éric Marty.
Bonjour.
On a donc compris que vous étiez à la fois écrivain et universitaire. Ça vous inspire, vous, ce thème des chansons chez Annie Ernaux ?
Oui, parce que j'y retrouve aussi toute la littérature, au fond. J'y retrouve Proust, pour qui la chanson aussi joue un rôle, avec Albertine, avec tout cet univers de la jeune fille et de l'amour. J'y retrouve, au fond, oui, toute la littérature. C'est un leitmotiv, je pense, très important de cette pseudo-sous-littérature que serait la chanson, cette sous-culture qui, en réalité, évidemment, dès lors qu'elle est intégrée à une entreprise d'écriture du type de celle d'Annie Ernaux, de Proust ou d'autres, devient quelque chose de parfaitement qui perd cette pseudo, je dirais, petit niveau. Voilà.
Donc, alors, qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans la manière dont on parle d'Annie Ernaux en règle générale?
Alors, je crois qu'elle paye très cher sa grande notoriété parce qu'elle est, je dirais, trop adjectivée, trop étiquetée, et notamment par un adjectif que je n'aime pas par rapport à elle, qui est le sociologique.
Oui, mais elle ne rejette pas non plus, hein, cette idée d'une écriture inspirée par la sociologie.
Oui, mais entre ce que dit un écrivain dans une interview et puis son œuvre elle-même, il y a quand même beaucoup un monde. Et ce qui me gêne là-dedans, d'abord, c'est le fait de l'étiquette. Cette étiquette-là qui est vraiment très, très réductrice, très petite, et puis qui me semble fausse. Vraiment fausse. Mm-hmm. Il me semble que ce qui habite Annie Ernaux, c'est une voix qui lui dit « écris » et qui lui dit « jouis ». Hein, et que, au fond, c'est ces deux impératifs qui sont là, qui la constituent et qui produisent cette œuvre magnifique où, en effet, il y a du commun, il y a du social, mais il y a, dans cet espace commun et social, il y a un isolement qui me semble fascinant. C'est ça qui me frappe beaucoup en lisant Annie Ernaux, c'est sa solitude, son isolement.
Vous pensez que les sociologues et les journalistes aussi peut-être font beaucoup de mal à la compréhension plus fine de son œuvre?
Oui, je crois que c'est vraiment effacer ce qu'elle peut avoir d'extrêmement singulier, de violent, d'irréductible, de fort, et qui fracture précisément l'écriture. Et alors, enfin, s'il y a un mot qui revient sans arrêt dans son propos, c'est écrire, verbe intransitif. Elle est constamment dans cette espèce de passion de l'écrire, de l'écriture, et dans ce rapport aussi au monde de la jouissance, au monde à Eros, qui est absolument étonnant, parce que s'il y a bien une mythologie sociologique que Annie Ernaux détruit, c'est bien la mythologie des genres. Rien n'est plus genré, entre guillemets, que l'écriture d'Annie Ernaux. Quand on lit Se perdre, c'est une sorte de fascination pour la virilité, pour la domination masculine. Il y a une acceptation totale de la soumission avec bien sûr une ironie, un décalage, une sorte d'angoisse aussi par rapport à ça, mais qui en tout cas, elle ne se détourne pas précisément de ces dimensions-là du féminin qu'elle assume totalement.
Ne contredit pas, selon vous, son féminisme?
Non, justement, c'est ce que je disais, c'est entre le commun et l'isolement. C'est-à-dire qu'elle est à la fois traversée, en effet, du discours commun, et qu'elle peut tout à fait assumer, mais elle l'assume pas sous les formes du sens commun, justement. Elle l'assume pas sous la forme du stéréotype. Au contraire, elle va jusqu'au bout d'elle-même, de sa sensibilité, du monde sensible qui est le sien. Et précisément, moi j'étais assez étonné, aussi bien dans Se perdre que dans Passion simple ou que dans d'autres textes, ce rapport qu'elle a au corps masculin et au désir féminin, où la séparation du masculin et du féminin est tout à fait assumée, jusque dans une vision quasiment racinienne peut-être. Il y a un côté Phèdre chez Annie Ernaux, Phèdre par rapport au jeune homme, Phèdre par rapport au désir masculin, et quelque chose qui vraiment me semble tout à fait très loin de Bourdieu, si vous voulez, si on pense que Racine n'est pas Bourdieu.
Peut-être Bruno Blankmann, une toute petite réaction sur cette idée qui est très actuelle, les débats autour de ces questions de la domination masculine sont tout à fait dans l'air du temps. Est-ce que vous comprenez ce que dit Éric Marty et qu'est-ce que vous pourriez ajouter?
Oui, je partage ce qu'Éric dit par rapport à Phèdre. Elle-même dit que finalement, alors dans un de ses textes, Phèdre, autant n'emporte le vent et Piaf.
C'est la même chose.
Voilà. Enfin, ça n'est pas la même chose, mais ça a contribué à faire d'elle la femme qu'elle est. Mm-hmm. Donc, y a vraiment cette interpénétration des modèles. Ce que disait Éric aussi sur une certaine lecture sociologisante, réductrice de l'œuvre, Annie Ernaux effectivement l'a payée, et très tôt, parce que lorsqu'elle publie Passion simple, forcément, ça détonne par rapport à ce qu'elle
roman très
publié.
Sexuel,
exactement,
très passionné, comme son nom l'indique.
Voilà, c'est la version resserrée de Se perdre, qui elle est la version diariste sous forme de journal. Lorsqu'elle publie Passion simple, un certain nombre de ses soutiens dans la presse, soutiens au nom de son écriture sociologique, son engagement politique, lui tombent dessus à bras raccourcis parce qu'ils ne comprennent pas qu'elle ose parler.
On reviendra peut-être justement sur la question de la réception. Éric Marty, vous venez aussi avec une actualité, comme à chaque fois pendant ces chroniques. C'est Jean-Christophe Bailly, Un arbre en mai, qui a retenu votre attention.
Oui, c'est le premier livre de Bailly que je lis. Je suis un peu honteux, mais je commence par celui-là. Et je trouve que c'est un très beau livre. C'est un livre, au fond, sur ou autour de mai 68. C'est le premier livre, je pense, qui est publié en 2018 pour ce cinquantenaire.
Il va y en avoir beaucoup,
mais c'est le premier. Et c'est surtout un livre bref, et sa brièveté est précieuse, parce que précisément, elle renvoie à un rapport, je crois, très intense à l'histoire, à cette brièveté et cette intensité de l'événement que Bailly restitue. Le titre est un petit peu trompeur, parce que la figure de l'arbre est un peu trop symbolique, c'est l'arbre de la liberté, c'est tout ça, mais au fond, c'est un arbre qui est mort, à peine planté, et la métaphore qui me semble la plus vraie pour décrire ce livre, ce serait ce qu'il dit, un film sans bande-son, ou un film dont on n'aurait que les roches, ou que des morceaux. Il y a quelque chose du film interrompu qui vraiment métaphorise l'écriture de Bailly qui est très belle.
C'est un livre qui a été en gestation pendant très longtemps puisqu'il devait voilà. être publié je crois il y a 10 ans, voire même 15 ans et puis finalement il le publie
c'est
maintenant.
C'est un livre retardé et ça je trouve ça c'est aussi, j'aime bien ces livres comme ça qui demeurent dans le sommeil et puis qui reviennent, qu'un écrivain ressort pour lui donner une autre présence et je trouve qu'il y a vraiment, enfin toute la fin est magnifique, c'est l'évocation de la nuit du 10 au 11 mai des barricades, il y a une très belle description de l'événement là, vraiment très très puissante et très forte, de l'attente de l'événement, de son explosion et puis Bailly se réfugie dans une sorte de cour d'immeuble et c'est un couvent, c'est une chapelle de couvent qui va passer la nuit avec des sœurs qui vont chanter des chants religieux. Il y a quelque chose de magnifique dans cette fin-là, ce diptyque de la brutalité de la violence étudiante et de la paix et du mysticisme des religieuses.
Un arbre en mai, Jean-Christophe Bailly, c'est aux éditions du Seuil. Merci. Suite de la compagnie des auteurs sur France Culture, c'est le dernier moment de notre série consacrée à Annie Ernaux, dernier moment pour évoquer le rapport de l'écrivaine aux différentes formes de pauvreté. Bruno Blankmann est aujourd'hui mon invité.
Vous dites aussi que lorsque vous aviez 20 ans et que vous commenciez à écrire, vous espériez faire œuvre d'art, peut-être. Mais dans votre cahier que vous teniez à cette époque-là, vous avez écrit « J'écrirai pour venger ma race ».
Peut-être que la phrase de Rimbaud, je pratiquais beaucoup Rimbaud, « Je suis de race inférieure de toute éternité ». C'est une phrase de Rimbaud. Et c'était cela, c'est-à-dire « Je viens d'un monde » qui a vécu des choses très dures, qui continue de vivre des choses très dures, dont je suis incluse dans ce monde. J'ai 22 ans, j'ai mes parents, je les vois travailler. Je vois aussi les gens qui viennent dans le commerce, qui leurs conditions de vie. Et voilà, je dis à la fois mon appartenance et ce que sera l'écriture, c'est-à-dire un moyen, de faire quelque chose pour faire advenir, alors là peut-être un peu plus de justice, bien que j'ai perdu peut-être là-dessus certaines illusions.
Annie Ernaux au micro d'Alain Weinstein en 2008 qui explique qu'elle est écrivaine aussi pour venger sa race, qu'elle écrit pour changer les choses. Ça peut nous conduire, Bruno Blankmann, à cet essai d'Aurélie Adler que vous connaissez bien et dont on va parler à présent. Aurélie Adler est universitaire comme vous, elle a écrit sur les figures du minuscule et du marginal, du pauvre, du nouveau pauvre chez un certain nombre d'écrivains d'aujourd'hui et notamment chez Annie Ernaux. C'est un texte qui a été publié en 2012 aux éditions Presse de la Sorbonne Nouvelle et c'est un extrait de sa thèse portant donc sur les récits de vie dans la littérature contemporaine. Alors Aurélie Adler, elle souligne que dans Journal du dehors et dans La vie extérieure, Annie Ernaux classe finalement les différentes formes de pauvreté en notant le glissement qui va du mendiant et du clochard au SDF. Et elle montre que les nouveaux pauvres, entre guillemets, s'inscrivent toujours dans le jeu social, même si c'est de façon dérisoire. Est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu la thèse d'Aurélie Adler et puis la faire vôtre aussi concernant le regard d'Annie Ernaux sur ces nouveaux pauvres, entre guillemets?
Oui, Annie Ernaux, je crois, fait partie des premiers écrivains, des premières écrivaines à avoir témoigné de ce que l'on appelait à peine les sans-domicile fixe. Mais ne se contente pas d'en témoigner, de les référer. Elle les intègre dans ses textes, dans ses récits, par exemple dans Journal du Dehors.
Vous voulez dire sous l'appellation sans-domicile
oui,
fixe.
Oui, sous l'appellation.
Parce que des clochards, il y en a toujours
bien
eu
sûr,
dans la littérature.
Mais le sans-domicile fixe n'est pas le clochard. En littérature, il y a toute une tradition aussi du clochard, le neveu de Rameau, etc. On est dans un réel beaucoup moins édulcoré, beaucoup plus violent, avec le sans domicile fixe. Et elle en observe les premières apparitions dans le RER qu'elle emprunte assez souvent, ou dans les stations de métro, ou dans la ville moderne de Cergy-Pontoise. Et donc, il y a le fait de témoigner en direct de l'émergence d'une nouvelle forme de paupérisation. Mais en même temps, elle fait jouer cela avec des seuils de pauvreté ou d'exclusion et d'humiliation, surtout, qui sont différentes. Parce qu'il y a aussi les pauvres et les humiliés intégrés. Par exemple, les caissières de supermarchés ou d'hypermarchés, à l'époque où elles existaient encore, elles disparaissent de plus en plus, mais elles sont présentes chez Annie Ernaux, dans la manière qu'elles ont de, finalement, faire un métier qui est aussi une sorte de mise au banc. Elle catalyse toute la colère de clients qui eux-mêmes ne sont pas particulièrement riches.
Elles sont mises au banc, mais en même temps
elles sont
dans le jeu social.
Oui, tout à fait.
Annie Ernaux fait vraiment la différence entre ce qu'elle appelle, alors vous allez nous expliquer peut-être ces expressions, les pauvres sincères et les pauvres faussaires. Qui seraient ces pauvres faussaires par rapport aux pauvres sincères?
Alors, les pauvres sincères, ce sont ceux qui m'ont dit parce qu'ils n'ont que cela pour vivre. Et les pauvres faussaires, ce sont tous ceux qui jouent. Si vous voulez, la société du spectacle déborde aussi hors de ces espaces traditionnels. Donc, il y a toute une réflexion effectivement très nuancée et surtout une mise en situation. Par exemple, dans Regarde les Lumières, mon amour, qui est le dernier journal, les derniers extraits de journaux intimes qu'elle a publié en 2014, elle montre très bien comment, dans le grand centre commercial, les mendiants n'ont plus le droit de citer. Ils sont littéralement exclus d'un espace qui lui-même est extrêmement hiérarchisé dans ce qu'il offre à la consommation, entre les produits qui sont faits pour un certain nombre d'acheteurs qui ont les moyens, et puis les autres, les produits cheap, les produits bon marché.
Alors, Annie Ernaux, ou plutôt sa narratrice, parce que il faut quand même toujours rappeler cette nuance, se désolidarise de ces formes de pauvreté qui seraient la comédie sociale de la pauvreté et de la charité, c'est-à-dire finalement comment à un moment donné on est obligé de rester dans une comédie sociale, même quand on est extrêmement pauvre. Et donc elle marque la frontière entre la pauvreté complaisante et une pauvreté radicale, obscène, et dans son journal du dehors, elle rapporte cette scène d'un homme dans le métro, adossé au mur, la tête baissée, qui ne fait pas la manche, mais qui a la braguette ouverte et qui montre son sexe. Et comme il ne fait pas la manche, il est en dehors du jeu social. Et il y a là, je crois, pour Annie Ernaux, quelque chose d'un geste magnifique. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi,
oui.
Bruno Blankmann?
Oui, c'est un geste qui la marque, et parce que c'est vraiment la mise à nu, c'est la figure même du dénuement absolu. C'est aussi la volonté, en quelque sorte, de provoquer pour sensibiliser. C'est une figure de la dépossession absolue, c'est une sorte de roi lire. quelque part aussi.
Oui. Et puis, c'est refuser de préserver la face, c'est-à-dire ne rien demander, simplement agresser et montrer sa présence de manière radicale dans l'espace public.
Oui, dans l'espace public, dans l'espace commun, où se concentre aussi une partie de la misère sociale, de la misère culturelle. Hein. Oui. Et c'est aussi la volonté, bien sûr, de prélever une image choc, hein, qui reste en deçà de tout commentaire explicite, mais qui, intégré dans un certain dispositif qui est celui du journal, devient signifiante.
Mmh. Alors, on pourrait terminer cette émission, Bruno Blankmann, par deux nouvelles questions sur la réception de l'œuvre de Annie Arnaud. On a déjà commencé à en parler un petit peu, mais peut-être quand même souligner que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est célébré. Je crois qu'on l'étudie alors à l'université, bien entendu, mais aussi dans le secondaire.
Oui, alors bien entendu, sauf que ça n'était pas si évident il y a encore 20 ou 25 ans. Hein, il y a eu un travail qui a été fait de reconnaissance de la littérature que l'on appelle parfois de l'immédiat contemporain, la littérature en train de s'écrire. Et il n'était pas si évident que cela d'étudier Annie Arnaud il y a encore une vingtaine d'années.
Comment ça s'est passé pour vous, par exemple, ou pour vos collègues ?
Écoutez, ça s'est, on va dire, ça s'est bien passé malgré un certain nombre de réticences institutionnelles préalables. Mais ça s'est bien passé parce que il y avait d'une part une très forte demande des étudiants. Et parce que...
Et des étudiantes en particulier, ou est-ce que les garçons comme les filles
alors,
s'intéressent
les étudiantes,
à Annie
Arnaud? Oui, mais les étudiants s'intéressent aussi à Annie Arnaud. Peut-être pas au même texte, mais les étudiants s'intéressent aussi à Annie Arnaud. Il y avait une demande par rapport à Annie Arnaud, par rapport à d'autres, d'autres auteurs, aussi Modiano par exemple. Ces auteurs qui sont à la fois, qui engagent un projet très ambitieux, mais qui écrivent d'une manière apparemment simple, donc qui touche un grand public. Et d'un autre côté, il n'y avait pas d'enseignants-chercheurs qui étaient en quelque sorte formés, enfin qui avaient accompli des travaux et qui pouvaient véritablement orienter les étudiants dans cette espèce de maquis, que dis-je, de maquis de jongle, que sont les romans. Hein. Il y en a mille qui paraissent chaque année, donc que retenir, que lire, qu'étudier, c'était quand même une sacrée question qui se posait dans les années 1990, 2000 encore, et notre travail à certains universitaires, ça a été véritablement de dégager, à titre de proposition, un certain nombre d'œuvres qui nous semblaient exceptionnelles.
Parce que là, on a l'impression, aujourd'hui, hein, connaissant la fin de l'histoire et quand même la gloire un peu universitaire d'Annie Arnaud, y compris, je crois, à l'étranger, on a l'impression d'une forme d'évidence, au point où elle devient une personne qui a aussi créé presque un genre littéraire du récit de filiation. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, c'est Annie Arnaud qui, aujourd'hui, devient l'une des figures de proue de ce courant-là de la littérature?
Alors,
en français
je dirais qu'elle satisfait tous les items, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans un projet ambitieux, construit, elle est à la fois dans l'invention d'une pratique, d'un genre, d'une écriture, mais elle est aussi extrêmement accessible à tout type de lecteur. Ce qui ne veut pas dire que son œuvre soit facile, mais elle se lit dans une langue qui est une langue extrêmement travaillée, extrêmement sophistiquée, mais qui efface toutes les coutures, qui donne l'illusion d'être une langue commune. Et ça, c'est la marque des plus grands, on va dire. Alors, à côté de cela, il y a d'autres écrivains qui sont extrêmement travaillés par l'université, mais qui, eux, demeurent davantage des écrivains pour Happy Few, ou avec un lectorat moins grand, je pense à Pierre Michon, par exemple.
Et à l'étranger?
Alors à l'étranger, oui, il y a des études tout à fait remarquables qui sont faites, par exemple, au Canada, hein, au Canada anglophone, au Canada francophone, dans un certain nombre de pays d'Europe, hein, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, l'œuvre d'Arnaud est extrêmement travaillée,
étudiée. La place a été beaucoup traduite.
Oui, et je dirais même que dans certains pays, on travaillait sur les textes d'Annie Arnaud avant qu'on les travaille chez nous.
Merci beaucoup Bruno Blankmann pour toutes ces analyses concernant la littérature d'Annie Ernaux. Je rappelle que vous êtes spécialiste du roman français contemporain, que vous avez organisé en 2012 un colloque sur Annie Ernaux.
Co-organisé avec Francine Best et Francine Dugaport.
Ah, on ne dit jamais suffisamment qui sont les co-organisateurs. Ces actes, on peut les retrouver aux éditions Stock dans un ouvrage intitulé Le temps et la mémoire. Et puis par ailleurs, vous avez dirigé et préfacé, je le signale parce que c'est récent, le dictionnaire Marguerite Yourcenar. C'est vous tout seul cette fois-ci? Non, il y a encore du monde derrière.
On était toute une armada.
Paru en 2017, c'est chez Honoré Champion. C'était donc le dernier épisode de notre semaine consacrée à Ernaux. Dès lundi, nous traverserons l'Atlantique pour visiter les quartiers de la drogue à Baltimore, puisque nous parlerons de David Simon, écrivain et créateur de la série mythique The Wire, sur écoute en français. Tout de suite, un moment de poésie comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Dans Vocaluscrit cette semaine, nous écoutons les poètes lire, les poètes se lire, nous les voyons en train de se lire. Prenez par exemple Philippe Beck. Eh bien, nous le voyons à Lyon, à la station d'art poétique ENSBA, le 15 octobre 2015. Immobile, attente du silence, assis, l'œil sur texte, la tête élancée, énonce introduction à la panthère. Marque du chef incliné, le vers, les césures du raisonnement, les mots sur la ligne de crête, le feuillet 1, entre doigts à deux mains, le livre à sa droite posé, chevelure bouclée noire, manteau anthracite, pull gris-bleu, sa voix instaure une nef rhénane, les vers timbrés en feuille A4, aux premières syllabes accentuées, baryton du nom propre, le dénommé nom, l'époque s'ouvre à la lumière d'une lampe de bureau douchant sa main droite. Il écarte la feuille lue, pile, typiquement descend, buste en avant, sans adossement, nymphe de jungle. Le blanc de fin de verre lance l'odeur, dénombre leurs fausses béquilles, et tout raisonnement sensible, la aime les odeurs, en effet, voix placée sur registre enrhumé, forme qui se cherche en bouche à force de métier. Il avance les lèvres, le rythme décroît sa fesse et reprend des enclins, grimpe pour la dernière page. Là-dessus, œil sur la feuille à gauche, réceptacle du pensable, matière accomplie. Merci, timoré vers le bas, mains hissées, jointes en l'air. Le portrait suivant se déroule aussi à Lyon, manifestation L'écrit parade à la bibliothèque municipale le 15 octobre 97, Claude Royer-Journoux. Dépôt d'un chronomètre sur le bord du pupitre. Alors, j'ai charge de vous faire entendre, vous faire sentir les lignes écrites en capitale, qui sont celles de la parole de Claude Royer-Journoux. Je suis un petit peu ému et inquiet avant de commencer peut-être dire si je renacle à lire à haute voix, c'est pas tout à fait sans raison, c'est-à-dire qu'un livre est muet. Il n'est pas fait pour être représenté par une voix. Si l'on prend l'exemple d'un poème calligraphié, quand on voit un poème écrit à la main, il n'est pas vraiment là. Le poème a besoin de quelque chose de neutre, comme le caractère typographique. Là, il a assez de neutralité pour exister. J'ai plus tendance à penser que le poème est pour les yeux et pour l'espace mental. Qu'est-ce qui reste dans la tête quand on a lu un livre? Enfin, après tout ça, je vais tout de même lire. Déclenchement du chronomètre. Des natures indivisibles, une méthode descriptive. Sans aucun bruit de syllabes, j'entends par cela tout autre chose. Le puits serait le cœur, chaque vécu à l'accomplissement du vide. 6 secondes. Une main enfantine dans la pièce, l'argent la plus sombre. 15 secondes. Il parlait de blocs d'espace et de blocs de durée. 15 secondes. Te dire une seule chose sans employer la bouche ni la langue, sans aucun bruit de syllabe. Le silence est une forme. 50 minutes, 14 secondes.
Merci Jacques Bonafé pour cette lecture de poème narratif de Patrick Beurard-Valdois.